de André Rivoire, Berthe au grand pied. Prologue. Reines au corps mignon, dames du temps jadis, dont l'âme est envolée en de bleus paradis, capricieuses et vagues ainsi qu'une fumée, mais dont toute légende est un peu parfumée, spectres inoubliés, vous qui venez le soir, invisibles, pourtant présentes, vous asseoir près des rêveurs et des poètes sans maîtresse, et répandre sur eux l'or de vos longues tresses, et les aimer dans l'ombre, et leur chanter tout bas les si vieilles chansons qu'ils n'inventeraient pas. Il nous plaît d'évoquer, fragile, en un poème, Berthe au grand pied, fleur de Hongrie ou de Bohême, qui sut rester chaste et fidèle avec douceur, qui fut presque une sainte, et qui fut votre sœur. Il nous plaît, pour charmer une heure passagère, d'avoir là, sous nos yeux, sa présence légère, de plaindre sans amour, sans couronne et sans pain, celle qui fut promise au lit du roi Pépin, de suivre pas à pas ses fortunes diverses, de respirer, printemps noyé sous les averses, le parfum de son âme éclose un soir de mai, qui s'ouvre enfin comme un beau lys longtemps fermé. Il nous plaît de montrer dans l'ombre qui s'éclaire, portraiturés en noir sur fond crépusculaire, les chevaliers portant le casque et le haubert, Pépin, la serve Alix et son cousin Tibère, et la vieille aux yeux secs qui trama l'imposture, et Dieu même, qui, pour sauver sa créature, au cœur des trois sergents soudoyés pour sa mort, fit sourdre, à temps, la providence d'un remords. Et la forêt du Mans, sans ciel et sans limite, et le bon paysan après le bon ermite. Et là-bas, seuls et vieux sous leur nom tout en fleurs, le roi Flore avec la reine Blanchefleur. 1. La tour de Strigon. Une plaine, du soir, du silence, une tour. Au pied, un lac tranquille et des bois alentour. C'est l'heure des langueurs et des monotonies. La nuit masse déjà, plus sombre au bord des cieux, l'accroupissement noir des monts silencieux. Berthe, avec Blanchefleur, rêve, les mains unies. Et Berthe dit « Ma mère, on croirait que le soir est triste d'une absence et vide d'un espoir. En vain, mon œil s'attache aux plis de la colline. Personne ne viendra, personne n'est venu. Ma jeunesse est stérile et mon cœur méconnu. Je vous aime et pourtant je me sens orpheline. J'espère encore et me sens triste d'espérer. Je voudrais être seule et je voudrais pleurer. Quelque chose en mon cœur se lamente et s'étonne. Qu'ai-je fait de ce jour qui penche à son déclin? J'ai brodé de la toile et j'ai filé du lin. Mon printemps est pensif et là, comme un automne. Pourquoi ne suis-je pas fille de pauvres gens? Légère sous le poids des labeurs diligents, l'hiver au coin de l'âtre où pétillent les bûches, et l'été dans la plaine où flambent les milis. Ma beauté serait fraîche et mes gestes hardis. J'aurais vécu des jours sans rêve et sans embûche. Au lieu de tout cela, je suis seule et j'attends. L'appel du vent s'attriste en mes voiles flottant. L'ombre au pli de ma robe éteint mes splendeurs vaines. Et le monde et l'amour, tout est si loin de nous. Quand je m'accoude au bord des soirs calmes et doux, le cœur vide et le front couronné de verveine. Voilà trop de longs mois qu'aux pays inconnus les messagers partis ne sont pas revenus. Faudra-t-il donc vieillir, monotone et jalouse? Faudra-t-il donc ainsi traîner au long des jours l'angoisse et le regret qu'il m'ignore toujours, le fiancé lointain dont ma vie est l'épouse? Jeune encore, je sens en mon âme, déjà, descendre un peu de la vieillesse qui neigea. mystérieuse et lente aux cheveux de mon père. Mon cœur va se fermer d'avoir trop attendu. » Et Blanchefleur, penchant la tête, a répondu, sans y croire et les yeux pleins de larmes, « Espère !» 2. Le bon roi Pépin. Or, dans les temps que Berthe espérait en Hongrie, autour de la Saint-Jean, quand la rose est fleurie et que la mousse abonde au flanc vert du coteau, le roi Pépin le Bref, fils de Charles Marteau, un soir qu'il était seul assis devant sa porte, songeait bien tristement que sa femme était morte. Il fit mander à lui ses comtes, ses barons, qui vinrent casqués d'or, étoiles d'éperon, et leur dit « Donne-moi ta main que je la serre. Ensuite, j'ai besoin d'un avis très sincère. Je suis presque très jeune encore, et suis très seul. Je me couche le soir comme un mort au linceul, et mon alcôve auguste est vide de caresses. Mon baiser tout-puissant s'écarte des maîtresses. Car, si j'avais un fils, j'entends qu'il fût de moi, ou du moins tel selon l'Église et par la loi. Voyez, réfléchissez et décidez. Que faire ? Sire, Berthe au Grand-Pied serait bien votre affaire, dit quelqu'un. Or, c'était Enguerrand de Montclair. Elle est fille de roi comme il convient, c'est clair. Berthe au Grand-Pied, dit l'autre en frisant ses moustaches. Ce nom nous garantit de solides attaches. Mais c'est perdre du temps que de parler pour rien. Qu'on demande sa main à son père, c'est bien. Je fais duc le premier de vous qui me l'amène. J'attendrai, s'il le faut, la fin de la semaine, mais pas plus. Par les monts, par les bois, par les veaux, courez, volez, crevez chacun 4 chevaux. Sachez-le tous avant de vous mettre en campagne. J'aurai d'elle un enfant qui sera Charlemagne. Nous serons gouvernés, messieurs, soyez contents. Dispersez-vous. J'ai dit. Je suis veuf et j'attends. De André Rivoire, Berthe au Grand-Pied. Prologue. Reines au corps mignon, dames du temps jadis, dont l'âme est envolée en de bleus paradis, capricieuses et vagues ainsi qu'une fumée, mais dont toute légende est un peu parfumée, spectres inoubliés, vous qui venez le soir, invisibles, pourtant présentes, vous asseoir près des rêveurs et des poètes sans maîtresse, et répandre sur eux l'or de vos longues tresses, et les aimer dans l'ombre, et leur chanter tout bas les si vieilles chansons qu'ils n'inventeraient pas. Il nous plaît d'évoquer, fragile, en un poème, Berthe au Grand-Pied, fleur de Hongrie ou de Bohême, qui sut rester chaste et fidèle avec douceur, qui fut presque une sainte, et qui fut votre sœur. Il nous plaît, pour charmer une heure passagère, d'avoir là, sous nos yeux, sa présence légère, de plaindre sans amour, sans couronne et sans pain, celle qui fut promise au lit du roi Pépin, de suivre pas à pas ses fortunes diverses, de respirer, printemps noyé sous les averses, le parfum de son âme éclose un soir de mai, qui s'ouvre enfin comme un beau lys longtemps fermé. Il nous plaît de montrer dans l'ombre qui s'éclaire, portraiturés en noir sur fond crépusculaire, les chevaliers portant le casque et le haubert, Pépin, la serve Alix et son cousin Tibère, et la vieille aux yeux secs qui trama l'imposture, et Dieu même, qui, pour sauver sa créature, au cœur des 3 sergents soudoyés pour sa mort, fit sourdre à temps la providence d'un remords. Et la forêt du Mans, sans ciel et sans limite, et le bon paysan après le bon ermite. Et là-bas, seuls et vieux sous leur nom tout en fleurs, le roi Flore avec la reine Blanchefleur. 3. la chevauchée des barons. Sur des chevaux noirs, sur des chevaux blancs, les hardis barons se sont mis en selle. De tout son désir, Pépin les harcèle. Barons et coursiers ont l'écume aux flancs. Épris d'horizon et goulus d'espace, ils vont, écrasant dans les champs herbeux, troupeaux de moutons et troupeaux de bœufs, la moisson qui pousse et l'enfant qui passe. Ils vont devant eux, sans trop savoir où. Leur galop d'enfer luit dans la ténèbre. Un qui tombe pousse un grand cri funèbre, sa bête ayant mis les pieds dans un trou. Et toujours, au loin, le reste s'élance, des crêtes, des monts, aux crêtes des monts, criant et hurlant comme des démons, hâtant leurs chevaux à grands coups de lance. Oh, les râteliers d'où pendait le foin! Épuisés, meurtris des coups qu'ils leur flanquent, les pauvres bidets s'usent et s'efflanquent. Pourtant, la Hongrie est encore bien loin. 4. L'arrivée. Cependant, on passait les nuits après les jours. Et Berthe, à son balcon, pensive, attend toujours. Les lèvres et les mains vaines, mais sans reproche. Or, voici que les temps et les barons sont proches. Et la Vierge, bientôt, ne doit plus ignorer que Pépin se languit de toujours espérer. Ils viennent, les voilà, fourbus et hors d'haleine. Leurs ombres devant eux s'allongent sur la plaine, et leur cuirasse luit dans le soleil couchant. Le galop des chevaux se hâte en trébuchant. Mais là-bas, comme Elsa fit plus tard vers le cygne, Berthe au grand pied leur tend les bras et leur fait signe. Puis, se ressouvenant qu'elle est fille de roi, elle prend un air doux, mélancolique et froid. 5. La demande. Les barons ont fait la demande. Tout s'est passé selon leurs vœux. Le père a dit « Ma joie est grande ». Et Berthe « Si l'on veut, je veux ». Elle rougit, suivant l'usage, et tous les barons d'admirer, au nom de Pépin, ce visage, si clair qu'on s'y pouvait mirer. Alors le roi Flore propose. « Messieurs, vous devez avoir faim. Venez donc prendre quelque chose de réconfortant et de fin. Vous avez la joue et l'œil cave, et vos chevaux n'en veulent plus. Videz mes celliers et mes caves. Soyez friands, soyez goulus. Tout est conclu, rien ne vous presse. Restez un mois, restez-en deux. Reposez-vous avec ivresse, des nuits et des jours hasardeux. » Mais eux, que Pépin seul anime, plus fort que la tentation, déclinent d'un geste unanime cette aimable invitation. « Notre prince est en peine, sire. Laissez-nous partir à l'instant. On se consume comme cire quand on ignore et qu'on attend. » « J'aime, dit le roi, votre zèle, mais je ne puis, à mon regret, vous octroyer la demoiselle sans son trousseau qui n'est pas prêt. Si vous avez trop souciance du roi qui languit de savoir, portez à son impatience l'allègement d'un sûr espoir. Volez à lui, prompte comme flèche. Vous lui direz, en arrivant, que Berthe vous suit en calèche et que son cœur marche devant. » Il dit. Chacun bondit en selle, et c'est ainsi, de 8 à 9, que Berthe au grand pied, très pucelle, fut promise à Pépin, très veuf. 6. Le départ pour la France. Tout est prêt. Sous les doigts des brodeuses agiles, les robes de velours, de soie et de satin, belles de leurs couleurs pimpantes et fragiles, sont écloses, comme des fleurs dans le matin. On a mis aux chevaux des guirlandes de roses. La cour d'honneur a pris un air d'enchantement. Des poètes joufflus ont récité des proses au nom de la famille et du gouvernement. Voici l'heure des vrais adieux et des tendresses, et du dernier baiser qu'un autre toujours suit. Le roi Flore se sent le cœur plein de détresse. Des pleurs tremblent au bord de ses yeux pleins de nuit. « Adieu, puisque je suis trop vieux pour vous conduire, ma fille. Trop d'hiver ont alourdi mes pas. Mais si, dans mon palais, l'âge m'a su réduire, mes suprêmes conseils ne vous quitteront pas. Ô pauvre, avant tout, ne soyez point amer. Il sied mal au bonheur d'être orgueil et dédain. Soyez fleur, blanche fleur, comme était votre mère. Ouvrez votre âme à tous, ainsi qu'un clair jardin. » Il dit et se détourne, et Berthe, sans penser, sanglote éperdument, sachant qu'il est trop tard. Tout au fond de son cœur, d'heureuse fiancée, s'éplore la tristesse amère du départ. Déjà, pour son passage, on fait ronger la foule. Au galop des chevaux, Berthe va s'éloigner. Cependant, les yeux lourds de pleurs qu'elle refoule, la reine Blanchefleur ne peut se résigner. Elle est là, sans espoir, dont son deuil se soulage, près de Berthe, impuissante à lui quitter la main. « Je t'accompagnerai jusqu'au prochain village, » dit-elle. « Je serai plus vaillante. Demain. » C'est le dernier adieu. Et toujours Blanchefleur a suivi son enfant. De soir en soir, de ville en ville, elle diffère l'inévitable adieu qu'il faudra bientôt faire. Le cœur lui sanglote et lui fend. Voici que les chemins vont quitter la Hongrie. Maintenant, c'est la Saxe, avec ses rochers nus. L'effroi de traverser des pays inconnus, sans qu'un visage vous sourie. La reine Blanchefleur se sent plus triste encore, songeant qu'il va falloir chevaucher en arrière. Le cortège a fait halte, au bord d'une clairière, dans un silencieux décor. Et toutes deux, la mère et la fille, s'étreignent. Elles voudraient sourire, et leurs yeux sont en pleurs. Des nids d'oiseaux heureux chantent parmi les fleurs, tout bas. Sans savoir, elles craignent. « Donnez-moi votre anneau, ma fille, en souvenir des jours où votre main m'était proche et câline, et pour garder de vous, pauvre mère orpheline, un don que je puisse bénir. Et maintenant, puisqu'il le faut, Dieu vous conserve. Alix vous accompagne où l'amour vous conduit. Aimez-la, qu'elle soit pour vous, dès aujourd'hui, votre sœur et non votre serve. Je l'ai voulu choisir, vierge de tout soupçon, parce que vous l'aimez et qu'elle vous ressemble, au point qu'on vous prendrait, quand vous êtes ensemble, pour deux fleurs du même buisson. Sa présence sera douce à votre souffrance. Elle, du moins, elle est heureuse et rien ne perd, car sa mère Margiste et son cousin Tibère vous suivent avec elle en France. Ils veilleront sur vous, ma fille, tous les trois. » Elle dit et l'embrasse, et le navrant cortège s'éloigne, et Blanchefleur, pour que Dieu les protège, fait dans l'ombre un signe de croix. 8. L'entrée à Paris. Paris ! Des fleurs et des drapeaux ! La ville entière est pavoisée, les balcons et l'humble croisée, les monuments et les chapeaux. Des gens sont grimpés aux toitures, risquant de se rompre le cou, pour voir, et d'ailleurs pas beaucoup, passer au galop trois voitures. Car chacun sait que, ce jour-là, le matin ou dans la soirée, Berthe va faire son entrée dans son carrosse de gala. On hurle, on s'étouffe, on s'égorge. Pépin, dès la pointe du jour, a dû rencontrer son amour près de Villeneuve-Saint-Georges. On se renseigne éperdument. On dit qu'elle est jeune et gentille. « Monsieur, vous écrasez ma fille. Où donc est passé mon amant ?» On se bouscule, on se querelle. Soudain, rumeur, c'est Berthe enfin, mignonne comme un séraphin et saluant de son ombrelle. Elle passe au milieu des cris dont on accueille les carrosses. Tous ces gens lui semblent féroces. Pépin prend des airs attendris. Elle a passé, grave et sereine. La foule au hasard se répand. Et tous, bourgeois ou sacripants, sont très fiers d'avoir vu la reine. 9. Le complot. Dans tout ce qui précède, on n'a point vu de traître. Patience, un instant, les nôtres vont paraître. Dans cette chambre obscure et propre au noir dessein, tous les trois ont quitté leurs airs de petits saints. Ils trament un complot. Margiste en sera l'âme. Alix en est la fleur. Tibère en est la lame. Ah, pauvre blanche fleur, si tu pouvais les voir, sinistres, parlant bas dans l'ombre, trio noir, sans scrupule, ourdissant leur toile d'araignée, dont ta Berthe est déjà la mouche désignée. Comme tu maudiras d'un cœur épouvanté ta crédulité borgne et ta naïveté. 10. Le repas de noces. Je ne vous dirai rien de la cérémonie par qui la pauvre Berthe à Pépin fut unie. Je ne vous dirai pas les gestes onctueux de l'évêque aux doigts souples, le discours de l'adjoint, le nom des plus beaux couples, le menu du repas. Vous saurez seulement qu'on a fait cher lit. La voisine au dessert est toujours plus jolie de tout ce qu'on a bu. Jeunes gens et vieillards, chacun fut bon convive. Et voici qu'une flamme indiscrète s'avive aux yeux du plus fourbu. C'est l'heure où la plus froide a le cœur charitable. Les genoux, amoureux des pauvres pieds de table, qui n'y comprennent rien, se rapprochent. Les mains se cherchent et consentent. Et les plus bedonnants sur leurs chaises se sentent le corps aérien. Berthe au grand pied, selon l'antique protocole, qui sévissait, branlant comme un maître d'école, son front déjà caduque. Berthe au grand pied, craintive et tendre, a dû se mettre en face de Pépin, son époux et son maître, près d'un vieil archiduc. Elle trouve que c'est bien loin, et puis qu'en somme, tout cet amas de gens dont la gaieté l'assomme n'est pas d'un grand régal. Et voici qu'à présent c'est le tour de l'orchestre. Pauvres chers épousés, leur grandeur les séquestre loin du lit conjugal. Mais, tandis qu'au doux son des harpes et des flûtes, les ménestrels chantaient les amoureuses luttes des chevaliers d'antan, Pépin cligne de l'œil vers Berthe très émue. Et la Vierge comprend que cet œil qui remue, ça veut dire « Viens-t'en ». 11. Les conseils de Margiste. Berthe s'est retirée en ses appartements. Elle est là, toute seule, assez mal rassurée, toute pleine de troubles et de frissonnements. Tournant au moindre bruit dont elle est effleurée, son profil gracieux vers la porte d'entrée, en des gestes d'effroi pudiques et charmants. On entre. C'est Margiste. Elle approche, discrète, à pas mystérieux qu'on n'entend point venir. Elle dit « Trois abbés sont en train de bénir le lit tendre et moelleux que l'amour vous apprête. Quittez-moi ce beau voile et cette gorgerette. Madame votre mère a dû vous prévenir. » Je songe en vous voyant comme je fus heureuse, tel soir au bras subtil de feu mon cher époux. Il était fort, il était tendre, il était doux. Quand j'y songe, un grand vide dans mon âme se creuse. Mais sachez, en trois mots, prenez bien garde à vous. Le roi Pépin le Bref a la main douloureuse. Le soin que j'ai de vous m'a su faire informer, discrètement, de la façon qu'il a d'aimer. Je tiens tous ces détails de son premier concierge. Vous voyez, j'en suis pâle encore comme un cierge. C'est un homme effrayant, surtout pour une vierge, un mari dangereux qu'il faudrait réformer. » Berthe s'écrie en pleurs. « Retournons chez ma mère !»« À quoi bon ?» dit Margiste. « Eh, vous n'y pensez pas. On saurait nous rejoindre au bout de 4 pas. »« Croyez-moi, cher enfant, toute fuite est chimère. Mais, dû ma pauvre Alix y trouver le trépas, j'entends que cette nuit ne vous soit point amère. Le ciel même a voulu, de la tête aux talons, qu'elle vous ressemblât de visage et d'allure. » Hormis les pieds, qu'elle a peut-être un peu moins longs. Elle a même yeux bleus et même cheveux blonds. Moi-même, je m'y trompe. Et si j'osais conclure, vous êtes le manteau dont elle est la doublure. S'il vous plaisait, madame, elle pourrait ce soir, d'un cœur triste et soumis, tenter pour vous l'épreuve. C'est elle quand son lit pépin ferait asseoir. Aux choses de l'amour, comme vous, elle est neuve. Et quand elle devrait, sans anneau, rester veuve, en tel péril, c'est tout gagné qu'un peu sursoir. » Elle dit, et déjà Berthe la suit, navrée. Même au soupçon du mal, son cœur naïf éclot, car toujours l'innocence ignore les complots. Mais Alix et Pépin vont faire leur entrée. Et comme la pudeur nous fut toujours sacrée, nous allons supprimer 3 ou 4 tableaux. 12. Le réveil de Pépin. Brisé d'amour, près d'Alix un peu lasse, le roi Pépin rêve et dort lourdement. Déjà le ciel pâlit. C'est le moment. Berthe au grand pied va réclamer sa place. Trop tard, hélas, le destin s'accomplit. Alix dira: « Que veut cette importune ?» Et Berthe, enfin, n'aura d'autre fortune que d'insister, pleurante, au pied du lit. La pauvre enfant n'y sera point admise. Même Pépin, s'il s'éveille en sursaut, pour n'avoir pas tout à fait l'air d'un sot, doit croire Alix, puisqu'elle est en chemise. Et cependant que la serve au cœur vil songe aux détails que sa fraude comporte. La douce Berthe ouvre déjà la porte, sans se douter qu'elle court grand péril. 13. La forêt du Mans. Un coin de bois perdu dans la forêt du Mans, des arbustes épars à l'entour d'un vieux chêne, si touffu que la nuit semble toujours prochaine. La Chouette l'emplit de ses ululements. C'est là que, sans scrupule, ayant juré sa perte, les poches tintant clair de l'or qu'ils ont reçu, valet du noir complot que Margiste a conçu, 3 sergents, rengagés, traînent la pauvre Berthe. Dieu même en sa faveur ne s'est point déclaré, pour d'autres criminels réservant son tonnerre. Et voici qu'à présent, Berthe la débonnaire va périr sans absoute et sans miséréré. Déjà les 3 sergents ont tiré leur épée. Berthe attend d'un cœur ferme et d'un corps anxieux. Et pour ne pas se voir mourir, ferme les yeux. Mourir, oh, n'être plus qu'une tête coupée. S'en aller d'ici-bas sans avoir eu sa part. Faudrait-il croire, enfin, ce qu'ont dit les sceptiques, que le vrai Dieu n'est pas le bon Dieu des cantiques, et qu'il est trop partout pour être quelque part? Mais, dans l'instant précis que Berthe désespère, sur un nuage d'or au céleste reflet, et ce nuage, c'est sa barbe, s'il vous plaît, vint à passer par là, brave homme, Dieu le Père. Son clair regard, qui met en fuite les péchés, se pose doucement sur ces hommes de crime, et tous 3, au moment de frapper leur victime, par un trouble inconnu, se sentent empêchés. « À quoi bon nous charger d'un meurtre? Pourquoi faire ?» dit l'un d'eux. « Reprenons, frère, notre chemin. Nous soutiendrons qu'elle a péri de notre main, et les bêtes du bois en feront leur affaire. » Sitôt dit, sitôt fait, ils s'éloignent. Leurs pas traînent sinistrement sur les feuilles durcies. Et bientôt la nuit tombe aux branches obscurcies. Berthe est seule et voudrait crier. et n'ose pas. 14. À travers bois. Elle a marché toute la nuit dans les ténèbres, que les loups emplissaient de hurlements funèbres, et la ronce méchante a déchiré ses mains. Et seule, à travers bois, sans lune et sans chemin, elle va gémissante et meurtrie et brisée, dans sa robe fragile et blanche d'épousée. Son corps fiévreux grelotte, elle a peur, elle a froid, et s'arrête et gémit. Pauvre fille de roi! Jusqu'à ce jour, hélas, depuis qu'elle était née, de parfums, de tiédeurs toujours environnée, elle ignorait l'horreur des nuits sous le ciel noir, et l'angoisse des raies sans gîte et sans espoir. À l'heure où, remuant les branches endormies, rôdent confusément des bêtes ennemies. Elle n'a même plus la force de s'enfuir, et son corps sans courage est prêt de la trahir. Épuisée et dolente, au bord d'une fontaine, elle pleure, elle songe à sa mère lointaine, la reine Blanchefleur qui venait doucement, penchée à son chevet, baiser son front dormant. Elle songe à Margiste et tout bas lui pardonne. Elle a recommandé son âme à la Madone et fait de longs adieux à tout ce qu'elle aimait. Maintenant, elle attend la mort et se soumet. Quand voici tout à coup, dans l'ombre toute proche, tinter pieusement l'appel clair d'une cloche. 15. Le bon ermite. La cloche a guidé Berthe à travers la forêt, puis s'est tue. Elle arrive auprès d'une clairière. Au seuil de sa cabane, un ermite en prière, des deux mains se frappant la poitrine, adorait. Il voit Berthe, et d'abord, craignant un de ces pièges que les démons subtils tendent à la vertu, redoutable, il s'écrie « Arrière, que veux-tu ? Je veille, et c'est en vain, Satan, que tu m'assièges !» Mais Berthe se rapproche et lui parle humblement. « Ne me repoussez pas, je suis lasse et perdue. J'ai froid, j'ai faim, j'ai soif. Votre pitié m'est due, mon père, et je l'implore au nom de Saint Clément. » L'ermite se rassure et, songeant que le diable ne se présente pas au nom d'un saint, voici, d'un visage plus calme et d'un ton radouci, qu'il ose sans remords se montrer pitoyable. Il interroge Berthe, et Berthe, sans détour, lui dit son nom royal, son cœur, son espérance, son départ de Hongrie et son entrée en France, l'amour du roi Pépin promis à son amour. Elle dit le filet de maligne imposture dont la serve magiste a su l'envelopper, le remords des sergents au moment de frapper, et sa nuit dans les bois, fuyant à l'aventure. Le bon vieillard l'écoute avec recueillement, et quand elle a fini cette histoire touchante, le matin rit au ciel, le bois s'éveille et chante, et les fleurs des buissons s'en trouvent doucement. Votre temps reviendra d'aimer et d'être aimé, dit l'ermite. Et tout bas, dût-il être lointain, gardez au fond du cœur l'espoir d'un clair matin, vibrant de soleil souple et de brise embaumée. Dieu même punira vos lâches assassins. Attendez les retours que sa bonté vous garde. Priez, résignez-vous, sachant qu'il vous regarde et qu'il vous a sauvé et qu'il a ses desseins. D'ici là, je connais une sainte famille, le père et sa bottier, dans cette humble maison, vous vivrez doucement, sans peur de trahison. Vous serez leur bon ange et vous serez leur fille. À votre sort ancien, dites un long adieu. Que nul, excepté moi, ne sache qui vous êtes. Et maintenant, voici des fruits et des noisettes. Reposez-vous, ma sœur, et rendez grâce à Dieu. 16. Chez les humbles. calmes et continues comme une eau sans brisant, les jours ont passé vite, et les mois, et les ans. Berthe, au milieu des bois, a vécu dédaignée, d'une vie humble et douce, et presque résignée. Debout dès l'aube, et tant que chantent les oiseaux, toujours poussant l'aiguille ou tournant ses fuseaux. Le sabotier Simon et sa femme Constance l'ont jadis accueilli en leur simple existence, et tous deux se sont mis bien vite à l'adorer. L'ermite vient parfois lui dire d'espérer, et les gens, qui, le soir, passent sans la connaître, l'écoutent un instant chanter à sa fenêtre. Aux plis frileux des coteaux bleus, l'adieu du jour mourant se dissémine, à petits pas qu'on n'entend pas, sous les branches la nuit chemine. L'ombre des bois gagne les cieux, broder mes doigts, rêver mes yeux. Des fleurs aux mains, par les chemins, les bûcherons s'en viennent des clairières, et du clocher va s'épancher l'appel des cloches en prière. À l'heure où s'endorment les bois, rêver mes yeux, broder mes doigts. Tel au hasard des mots sur des airs d'autrefois, Berthe égrène en brodant ses rêves et sa voix. Le silence du soir tendrement l'environne, et son front, qui devait porter une couronne, s'incline un peu pour suivre au pli des linges blancs l'aiguille jamais lasse en ses doigts vigilants. Elle n'espère plus que Pépin lui sourit, mais elle pense à lui, de loin comme en Hongrie. Sur la tour de Strigon, les soirs qu'elle rêvait d'un prince en manteau d'or assis à son chevet. 10 ans n'ont point flétri sa grâce d'exilé. Se résigner tout bas, c'est être consolé. Et Berthe se résigne, et toute sa douleur, c'est d'évoquer parfois la reine Blanchefleur. Sans enfant, et bien seule, et bien lasse, et bien triste. Et le roi Flore, vieux à douter qu'il existe, tous deux ont pu mourir. Au fond de sa forêt, si loin d'eux et de tout, Berthe ne le saurait. Mais elle a cet espoir en son âme ingénue que Dieu veille sur elle et l'aurait prévenue. 17. Le ménage royal. À Paris, même jour, même heure. Un boudoir tendre, miroirs et bibelots de toilette, un divan. Enfin, tout ce qu'il faut pour s'aimer ou s'attendre. Un nid d'amants coupables ou de maris fervents. C'est là que chaque soir, aux genoux de la reine, dolent et résigné, depuis 10 ans, Pépin servilement se traîne et se sent dédaigné. Car la reine est méchante, et sa beauté funeste a ce charme obsesseur dont nul ne peut guérir. Pépin tout à la fois l'adore et la déteste, d'un amour douloureux qui s'obstine à souffrir. Lui qui l'espérait douce, et bonne et maternelle, elle l'a tant déçu, que parfois, comme en rêve, il songe, est-ce bien elle? Et doute à son insu. Est-ce triste, être un roi puissant que l'on ménage, dont le fils portera la couronne de fer, être maître en Europe et serf en son ménage, et cuire en son amour comme dans un enfer? Triste. Oh, triste! Et malgré le désir qui l'affame, un autre ennui le point. C'est que les 2 enfants qu'il a de cette femme ne lui ressemblent point. Tel il songe. Et dans l'ombre, à méprise de Lucre, la reine avec Tibère s'épanche en doux propos. Qu'est-ce que tu dirais d'un impôt sur les sucres, d'une aide sur les blés et d'un droit sur les pots? 18. Flore et Blanchefleur. Toujours le même soir, en Hongrie, un jardin, en qui l'automne éclot de l'été qui se fane. Tout s'apaise et s'endort sous un ciel diaphane. L'heure est douce, et les fleurs s'inclinent sans dédain. Sur un banc que la pluie et la mousse ont verdi, perdu dans l'ombre comme un nid dans l'herbe haute, Flore et Blanchefleur sont assis côte à côte, la pensée indolente et le front alourdi. Ils rêvent doucement à l'absente. Leurs yeux, tristes, évoquent d'elle un geste, une attitude, ayant même regret et même solitude. Ils parlent d'elle encore, bien que silencieux. 10 ans qu'elle est partie aux pays étrangers, et depuis, sans espoir et presque sans nouvelles, ils savent seulement le peu que leur révèle le va-et-vient tardif de rares messagers. Elle, qu'ils ont bercée au creux de leurs genoux, elle, jadis si frêle, elle est peut-être grasse. Ces deux maternités ont pu faner sa grâce, cerner d'un bleu meurtri ses yeux calmes et doux. Tel il rêve le soir, et plein des jours anciens, ils s'évadent tous deux hors du présent sans joie. Et Blanchefleur soupire. Il faut que je la voie. J'ai rêvé l'autre nuit qu'elle me disait « Viens ! Laissez-moi m'en aller vers elle qui m'attend. Et quand je reviendrai bientôt, grave et lassée, pleine encore du bonheur de l'avoir embrassée, nous pourrons tous les deux mourir d'un cœur content. » Un peu de brise pleure aux branches en émoi, et Flore, qui depuis longtemps toujours refuse, à voix basse, attendrie d'espérance confuse, murmure « Allez, princesse, et parlez-lui de moi. » 19. Blanchefleur en France. La reine Blanchefleur a traversé la France. Les champs étaient déserts, les bois étaient flétris, et les villes, où les enfants jouaient sans cri, sombres, avaient un air de deuil et de souffrance. Tout le long des chemins, elle regardait fuir une succession de plaines dévastées, terres à l'abandon, maisons inhabitées. Son bonheur maternel n'osait s'épanouir. Elle avait dans le cœur un besoin de sourire. Partout sur son passage, elle voyait les gens détourner leurs regards de ses yeux indulgents, et des poings se crispaient qui semblaient la maudire. Mais voici qu'elle est presque au bout de son chemin. Cette nuit sous la tente est enfin la dernière. Demain, elle tiendra sa fille prisonnière dans ses bras, sur son cœur, sous ses lèvres. Demain. Et, ne pouvant dormir, Blanchefleur s'est assise, à quelques pas du camp, pour rêver sans témoin. Pleine de sa tristesse, elle regarde, au loin, les étoiles trembler dans la brume indécise. Aux lisières du bois, le silence frémit. Mais on parle dans l'ombre, et Blanchefleur écoute. Un bruit confus de gens en marche sur la route se rapproche. Une voix d'enfant pleure et gémit. La reine Blanchefleur les appelle et demande « Où vous en allez-vous si tard, mes pauvres gens ?» Et l'homme a répondu « Madame, les sergents ont saisi ma maison pour acquitter l'amende. Nous allons devant nous sans travail et sans pain. Comme nous, la moitié de la France m'en dit. Avarice de reine est dure maladie. Cette Berthe a changé notre bon roi Pépin. Autrefois, cette plaine était fertile et riche. Aux étables, le soir, rentraient de longs troupeaux. Mais on a tant sué d'argent pour les impôts qu'on se croise les bras au bord des champs en friche. Puis, à la porte, un jour, l'huissier heurte du poing. Paix ou pars ! On s'en va, la tête et les mains vides, tandis que les petits-enfants, bouches avides, pleurent de faim dans l'ombre et ne comprennent point. Et Blanchefleur songeait. « Seigneur, est-il possible ? Non, non, ce n'est pas vrai. Cet homme souffre et ment. Ma fille était trop pure et trop tendre. Comment serait-elle à ce point devenue insensible ?» Elle tire sa bourse, où de l'or teinte et luit. Elle arrache à ses doigts ses bagues et s'écrie « Tenez, prenez, je suis Blanche-Fleur de Hongrie. Si ma fille vous a fait tort, pardonnez-lui. » Vint le châtiment. Or, Blanche-Fleur est au palais depuis hier. Alix est très émue, et Tibère n'est pas fier. Et d'un pli soucieux, leur front pâle se creuse, songeant qu'il va falloir payer la douloureuse. N'importe, ils lutteront jusqu'au bout. Pour l'instant, gagner du temps le plus possible est l'important. Pépin seul tient en bas compagnie à la reine. Alix a déclaré qu'elle avait la migraine. Elle garde la chambre et ceinte de bandeaux salutaire dans la pénombre des rideaux qui tamise le jour trop cru de la fenêtre. Elle pense. Après tout, que peut-elle y connaître? Je ressemblais à Berthe. On n'y voit pas très clair dans cette chambre. Et puis, il faudrait bien du flair pour se douter après 10 ans de réussite qu'au lit du roi Pépin, ma place est illicite. Mais voici qu'on entend venir un bruit de pas. La reine Blanchefleur paraît. « N'approchez pas, ô ma mère !» soupire Alix d'une voix fausse. « Car je me sens déjà comme un mort dans sa fosse. Mère, n'approchez pas, le médecin défend qu'on m'embrasse. » Et Blanchefleur dit « Ma pauvre enfant, n'ai-je fait un si long voyage, ma chérie, par tous les longs chemins qui viennent de Hongrie, que pour te voir mourir ?»« Mère, n'approchez pas !» dit la serve. « Parlez de loin et parlez bas. Votre présence me fait mal et me torture. » Mais Blanchefleur déjà devine l'imposture. Sa fille, en la voyant, n'aurait pas tel dédain. Tout son cœur maternel s'illumine soudain. Prompte comme un joueur qui fait sauter la carte, d'un bond elle s'élance au rideau qu'elle écarte, et de tous les côtés, dans leurs habits de cour, s'empressent les barons. Pépin lui-même accourt. Blanchefleur, soulevant la jupe de dentelle, « Ce ne sont pas les pieds de ma fille !» dit-elle. « Roi, vous avez été trompé, n'en doutez point !»« Je le savais, » dit-il, « mais non pas à ce point !» La serve à deux genoux se prosterne et se traîne, et Blanchefleur reprend « Qu'as-tu fait de ta reine ? Parler te vaudrait mieux que tel gémissement. Rends-moi ma fille !» « Elle est dans la forêt du Mans, » dit alors une voix. « Pardonnez-nous, messire, je fus un de ces trois qu'on chargea de l'auxire. Nous l'avons seulement perdue en la forêt. En bien cherchant, peut-être on la retrouverait. » Pépin s'écrie alors. « Que personne ne sorte, arrêtez cette femme. Et si la reine est morte, sachez que je prétends, moi-même, d'un seul coup, madame, vous tranchez la tête au ras du cou. Qu'on arrête avec vous Tibère, votre complice. Il sied qu'il est aussi part en votre supplice. Maintenant, mettons-nous en route sans retard. Vous, sergent, guidez-nous. Et comme il est très tard, n'oublions pas, messieurs, de prendre des lanternes pour ne pas choir dans les étangs ou les citernes. » 21. Berthe et Pépin. Le sergent qui les guide a reconnu la place. Le vieil arbre, le chemin creux, c'est bien cela. Un grand besoin d'agir soutient leurs forces lasses. Mais naturellement, Berthe n'était plus là. Déjà le ciel brunit, le cœur du roi tressaille, et son dernier espoir s'éloigne avec le jour. Mais voici que, dans l'ombre, écartant la broussaille, cette femme qui vient... C'est Berthe, son amour. Tandis qu'elle brodait, rêveuse, en sa chaumière, le cœur plein d'un mystérieux et tendre émoi, il lui sembla qu'un ange, en robe de lumière, de loin lui faisait signe et lui disait « Suis-moi ». Sans surprise, docilement, elle est venue. Elle est là maintenant, grave et craintive, un peu. Le roi Pépin la prend par sa blanche main nue, et les parfums du soir embaument leur aveu. « C'est donc vous, cette fois, vous que j'ai tant aimé, vous que je pressentais absente obscurément. Je vous ai. Votre main tremble en ma main fermée. Ce n'était donc pas vous qui faisiez mon tourment. Je regarde et je vois. Quand je maudissais l'autre et que je détestais son âme en son beau corps, le corps seul que j'aimais était un peu le vôtre, et je ne pouvais pas adorer sans remords. Je comprends maintenant pour quel espoir tenace, malgré moi, mon amour ne voulait pas mourir. L'avenir était sombre en moi, vaine menace. Mon cœur ne s'est pas clos, puisqu'il devait s'ouvrir. Et toi, que faisais-tu? Mais ce n'est pas ma faute si l'autre avait sa place en mon lit, sous mon dais. Toujours, assis, couchés, nous vivions côte à côte. Et Berthe, en rougissant, lui répond « J'attendais. » Blanchefleur, à son tour, s'approche, et l'on s'embrasse. On pleure et l'on sourit. Tableau simple et charmant. Mère et fille, femme et mari. Je vous fais grâce, et ne décrirai point leur attendrissement. Vous saurez seulement que dans le crépuscule, dont la pénombre tendre emplit au loin les bois, Pépin parlait d'amour sans être ridicule. Et vraiment, c'était bien pour la première fois. Maintenant, le public aime qu'on le renseigne sur les héros qu'on laisse en des cas hasardeux. C'est un vœu trop connu pour que je le dédaigne. Sachez donc en trois mots tout ce qu'il advint d'eux. Je ne vous ai pas dit que Margiste était morte. C'est un oubli. Margiste est morte, ayant pris froid. D'Alix et de Tibère, l'histoire nous rapporte que Berthe intercéda pour eux auprès du roi. Blanchefleur retourna très heureuse en Hongrie. Maître Simon devint sabotier de la cour. Emploi que l'on créa tout exprès, je vous prie. Quant à Berthe et Pépin, ils s'aimèrent d'amour. Vous voyez, tout cela finit par un sourire. L'histoire est toute simple, et je n'ai qu'un regret. C'est que pour la conter, il ait fallu l'écrire. Et puis, conter en vers, c'est peut-être indiscret.